Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Le théâtre de Goldoni.
Savez-vous la nouvelle ? Goldoni vient d'arriver. Grand auteur, magnifique auteur, l'auteur de ces belles comédies, qui a supprimé les masques, qui a ruiné la comédie.
Goldoni se considérait comme un homme pacifique. Néanmoins, ses pièces, tout en attirant souvent le succès, provoquèrent d'innombrables disputes. C'est que le théâtre est un sujet d'une extrême importance dans la péninsule du XVIIIe siècle. Goldoni naît à Venise en 1707. Nous autres Français de 2015 pouvons comprendre l'état de la sérénissime République d'alors. Plus elle constate qu'elle est entrée dans une crise profonde, plus elle tient à proclamer haut et fort son excellence et la nécessité de revenir à ses fondamentaux, comme on dirait aujourd'hui. Et parmi ses fondamentaux, il y a le théâtre. Ceci posé, on comprend mieux Goldoni quand il affirme qu'il faut observer les lois du peuple dans les spectacles destinés à son intention et qu'il ajoute « Il faut savoir amuser le public pour l'instruire ». Après s'être consacré à la réforme du théâtre vénitien, Goldoni s'en vient en France. On ne sait pas, ou on sait trop peu, qu'il a passé les 30 dernières années de sa vie dans notre pays. Né dans une république qui ne voulait pas mourir, il est mort en 1793, dans une république qui naissait, non sans avoir été pensionné longtemps par Versailles, qui s'intéressait aussi au théâtre. Étonnante existence à partie double, qui fait de lui un compagnon de vie pour les metteurs en scène et les spectateurs, aussi bien de ce côté des Alpes que de l'autre.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Myriam Tannant, bonjour.
Bonjour.
D'habitude, je ne donne pas les titres des invités, mais vous en avez tellement. Ça fait une si belle panoplie que je vais les exposer. Metteur en scène de théâtre et d'opéra. Vous avez mis en scène plus d'une fois Goldoni. Auteur et traductrice de théâtre, vous avez traduit Goldoni. Professeur à Paris 3. Et puis quand même, ça c'est un titre impressionnant, vous avez été assistante de Giorgio Strehler au théâtre de l'Europe de la plus haute époque dans les années 1980.
En effet, oui, je l'ai rencontré justement à cause de Goldoni. C'était avant la fondation du théâtre de l'Europe en 1978 et il
ça,
montait.
Ça c'était au Français déjà.
Au Français, la trilogie de la villégiature.
Goldoni, il est revenu très en force grâce à Strehler notamment et aussi à Visconti, on le oui. sait moins.
Oui, Strehler a monté des 47 le serviteur de 2 mètres, donc qui est devenu le célèbre Arlequin serviteur de 2 mètres, qu'il a toujours monté et qui est devenu emblématique du Piccolo Théâtre de Milan. Mais il avait monté d'autres pièces.
Et Visconti
a monté une mémorable Locandiera en 52 à Rome avec sa troupe et il y avait dans le rôle du chevalier le jeune Marcello Mastroianni, voilà. Et la pièce est venue en 55 à Paris et a donné lieu à des critiques mémorables aussi puisque Barthes a écrit un texte car on ne comprenait pas très bien quel était le but de cette mise en scène puisqu'on pensait que Goldoni c'était comme l'avait dit la Douze et des dentelles et du brio et là on avait une pièce rigoureuse et réaliste et donc on ne comprenait pas bien.
Il a publié de son vivant 17 volumes de théâtre et 10 préfaces de ces 17 volumes sont consacrées à raconter sa jeunesse. Il a beau se prétendre prédestiné au théâtre, il a jusqu'à l'âge de 40 ans exercé toutes sortes de métiers dans toutes sortes d'endroits.
Oui, absolument.
En compagnie de toutes sortes de femmes,
mais ce qui est important de dire, c'est qu'il avait un père médecin qui aurait bien voulu qu'il continue à faire médecine. Puis finalement, il a fait du droit, donc il est devenu avocat. Il a passé une thèse à Padoue et il a été avocat il a été dans l'ordre des avocats vénitiens. Donc ça lui a donné beaucoup de... Il a observé vraiment tout ce qui se passait et ça l'a beaucoup aidé pour son écriture théâtrale.
Il a passé un moment, plus d'une fois d'ailleurs je crois, dans sa jeunesse à Chioggia. Chioggia, c'est une ville au sud de Venise, une ville de
c'est
pêcheurs.
C'est une île, oui, c'est une île de pêcheurs, oui.
Et des ruelles dans lesquelles s'interpellent les femmes dans une manière de polyphonie. Ici, avant de se disputer, elles attendent le retour de leurs hommes.
Bonjour.
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 Bonjour. Creature, cosa dicevo questo tempo?
Eh bien, les enfants, qu'est-ce que vous dites de ce temps-là?
Che ordine zero? Mais non so, vale. Ouais, cugnat, che ordine zero?
D'où vient le vent? Ah, je sais pas. Pasqua!
Oui?
D'où vient le vent?
Non ti senti, che bocconi di sirocco.
Sarò bonda a venire da sottovento?
Si vien, si vien. Si vien i nostri uomini, e al vento in pupa.
Ancora domani doverà venire. Oh, mia donna, che spesso che lavorare, avanti che venga dovrà venire sto mero.
Eh, tu sens pas le sirocco? Si nos hommes sont en train de revenir, ils auront le vent en pupa.
Ah oui, vraiment qu'aujourd'hui ou demain?
Oh, faut que je me dépêche, je voudrais bien avoir fini ma dentelle avant qu'ils arrivent.
Dis, che ca? Quanto te ne manca venire?
Oh, me ne manca un braccio.
Ti lavori mondo poco, figlia mia.
Quanto sei che costa meno su sto ballone?
Una settimana.
Beh, una settimana.
Destrigate, se ti voli la carpetta.
Dimmi, Chica, come ti resti la fer?
Oh, un bon pied.
Ma ma fille, tu vas guère vite.
Depuis quand la dentelle est-elle sur le tambour?
Une semaine.
Justement, une semaine.
Vous nous pardonnerez d'avoir trop fait entendre le mot dentelle, Myriam Tanant. Et puis, ça c'est pas bien d'avoir juxtaposé à la version Strehler en italien, la version en français pour la télévision de Marcel Bluval. C'était pour un meilleur entendement pour nos auditeurs. D'ailleurs, est-ce que
pourquoi
c'est de l'italien ou est-ce que c'est un dialecte de Chioggia ou est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de langue?
Oui, il y a plusieurs niveaux de langue, mais c'est du dialecte Chiozzotto, donc de Chioggia, parce que Goldoni voulait redonner au peuple sa langue. Véritablement, il pensait que le dialecte était une langue. Et donc, c'est une pièce, Baruffe à Chioggia, c'est une pièce de la fin de la période vénitienne de Goldoni. Et là, la réforme est faite. Il a envie aussi, il se rend compte que... il a le droit d'écrire des pièces pour le peuple. Enfin, il se donne le droit, ce qui provoque un certain nombre de crises et de critiques.
Et ça lui rappelle aussi sa jeunesse qu'il peut comme et ça évoquer.
Exactement, puisqu'il y a un personnage qui est là et qui est un juge, l'assistant du juge, en fait, du substitut.
C'était son métier.
Il avait exercé cette profession dans sa jeunesse à Chioggia. Donc c'est une allusion autobiographique, certainement.
Vous avez prononcé le grand mot, la réforme. Alors vous m'avez recommandé de ne pas parler de ce qui se passe un peu partout, dans le nord de l'Italie notamment, qu'il a sillonné dans tous les sens. Parce que les choses importantes, c'est pas à Bologne, c'est pas à Milan, les choses importantes, là où il y a de l'expérimentation et du mouvement, c'est à Venise.
Non, si, c'est important, c'est évident que c'est important. Non, mais je vous ai dit pas tout à fait ça. Je vous ai dit ce qui est très important, c'est de se concentrer sur sa réforme, parce que c'est vrai qu'il se passe des tas de choses. On l'appelle et puis les pièces qu'il crée sont expérimentées dans les places théâtrales à Milan, à Bologne. Il va partout dans le nord de l'Italie. On expérimente, on crée, il va créer à Milan des pièces et surtout on lui demande des livrets d'opéra. Il raconte d'ailleurs dans ses mémoires des expériences terribles où il essaie de lire une tragédie lyrique qu'il a écrite et les chanteurs n'écoutent pas, etc. C'est pour lui terrible.
On va entendre un extrait des mémoires lu par Julien Bertrand. Mais vous pouvez nous dire un mot de ses mémoires?
Ces mémoires, il va les écrire. Alors, vous avez cité les mémoires traduites par Ginette Herry.
Ce qu'on appelle les mémoires italiennes, c'est-à-dire les préfaces aux 17 volumes de théâtre.
Voilà, les préfaces au théâtre.
Et puis il y a les mémoires.
Et il y a les mémoires français qu'il a écrit à partir de 17. 1784 à Paris et qu'il dédie au roi de France et dans lesquels, bon, évidemment, il raconte pas toujours la vérité. C'est un peu le roman de sa vie, de son expérience théâtrale, mais c'est une œuvre extraordinaire.
Alors c'est un peu proliférant tout ce qu'on dit, mais c'est normal parce que Goldoni c'est un arbre. Revenons à l'idée de réforme telle qu'il la présente dans un récit qu'il fait dans ses mémoires de son séjour à Bologne. Et vous allez me dire peut-être que l'essentiel de la réforme n'est pas là dans ce qu'il dit et qui serait simplificateur.
Oui.
C'est dans cette ville de Bologne, la mère des sciences et la mère de l'Italie, qu'on s'était plaint il y a quelques années de ce que ma réforme tendait à la suppression des quatre masques de la comédie italienne. Oui, parce que les Bolognais, plus que les autres, aimaient beaucoup ce genre de comédie. Il y avait parmi eux des gens de mérite qui criaient partout « Il est indigne qu'un Italien porte atteinte à un genre de comédie avec lequel l'Italie s'est illustrée. » Mais le masque fait toujours beaucoup de tort à l'action de l'acteur, que ce soit dans la joie ou dans le chagrin, qu'il soit amoureux, fantasque ou ironique. C'est toujours le même cuir qui se montre. Et il a beau gesticuler, changer de ton, il ne fera jamais paraître sur les traits de son visage, qui sont les interprètes de son cœur, les différentes passions dont son âme est agitée. Voilà pourquoi j'avais décidé la suppression des masques de la comédie italienne et je voulais remplacer les farces par des comédies.
Alors, la réforme, c'est d'abord l'enlèvement du masque, la suppression du masque.
Mais c'est pas tout. C'est, il constate une chose, c'est-à-dire que il se rend compte que les comédiens, parce que travailler avec le masque, c'est tout de même une pratique assez difficile. Il faut savoir bouger, il faut savoir faire, il faut savoir improviser. Et il se rend compte, lui, que, étant donné que les comédiens sont presque tous partis en Europe, en France, on sait très bien l'influence des comédiens italiens, Molière ne s'en cache pas, etc. Et justement, il se rend compte que les comédiens ne sont plus comédiens italiens, ils voient des farces qu'il donne et qui lui font honte presque. Donc il décide d'écrire tous les rôles, il décide de diriger les comédiens, il décide de créer une autre forme de théâtre.
Je parle avec un accent que vous allez contester, le premeditato.
Oui.
C'est-à-dire que c'est ce qui est écrit, pré-écrit.
Oui, mais ça c'est encore complètement une autre chose. C'est-à-dire que les comédiens improvisaient à partir de textes, ce qu'ils appelaient, ils avaient leur bagage, et à partir de comédies savantes souvent, et à partir de textes pré-écrits, etc. Donc vous voyez, c'était des montages qu'ils faisaient de tous ces textes-là. Donc quelquefois la cohérence n'était pas tout à fait là. Donc ce qu'il veut, lui, c'est vraiment créer des pièces de caractère et il se base, il dit pour ça, je me base sur la connaissance du monde, l'observation du monde et la connaissance du théâtre.
Non pas la belle nature, là je cite Ginette Herry, oui, autre grande spécialiste, oui, de Goldoni, non pas la belle nature idéalisée que modèlent les règles de la bienséance, non, le naturel.
Le naturel, ouais. Il observe.
Des dizaines et des dizaines de pièces de théâtre, c'est difficile de faire un total. Beaucoup d'opéras, bouffe, vous en avez monté, vous ?
Oui, c'est-à-dire j'ai fait une réécriture des Bagni di Abano, qui est devenue la station thermale que nous avons créée dans les années 90. Ben, c'était au moment du bicentenaire, oui, donc c'était en 93 à l'Opéra de Lyon, et puis on est parti en tournée à la Scala, donc c'était une musique de Fabio Vacchi.
Vous nous pardonnerez de présenter, parce qu'on va faire un parcours cursif de quelques-unes des œuvres les plus célèbres, d'avoir choisi la musique de Maurice Jarre pour les rustres de Goldoni. Les rustres ont été montés par Jean Villard dans la cour d'honneur en 1961. Jean Villard, qu'on entendra un instant tout à l'heure avec son interprète principal et peut-être inattendu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Dans la Venise marchande du XVIIIe siècle, un marchand, un ours, un vrai rustre, Lunardo, fait vivre dans la terreur familiale, 100 ans, sa seconde femme et sa fille.
Bon sang, le voilà.
Il entre comme les chats. Mon père, je suis votre servante.
Servante. On ne se salue même plus.
Travaillez, travaillez. Pour faire des politesses, vous négligez votre ouvrage.
Je travaillais jusqu'à maintenant. Je vais avoir fini mon vent.
Je voudrais bien savoir, figurez-vous, si nous sommes payés à la journée.
Mais vous, il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez toujours des réponses de ce genre.
Voyons, père, pendant les derniers jours du carnaval, faites-nous la grâce de ne pas crier.
Ah oui, restez un jour sans crier. C'est plus fort que lui.
Non, mais vous l'entendez, cet hurluberlu. Alors que suis-je donc, un tartare, un monstre? De quoi vous plaignez-vous? Les choses honnêtes, je les aime tout autant qu'un autre.
Eh bien alors, vous nous emmenez faire un petit tour et on met des masques.
Des masques?
Bon, le voilà qui monte sur ses grands chevaux.
Vous avez le front de me demander que nous sortions masqués? Mais vous ne m'avez jamais vu. Il faut dire les choses comme elles sont. Me mettre un masque sur la figure? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque? À quoi ça rime de sortir masqué? C'est, ne m'en faites pas dire davantage. Les jeunes filles n'ont pas à sortir masquées.
Une femme mariée?
Une femme mariée non plus. Non, madame, pas plus les femmes mariées.
Mais alors, figurez-vous, pourquoi les autres le font-elles?
Figurez-vous, écoute, moi je m'occupe de ma maison, je ne m'occupe pas des autres.
Mais parce que, il faut dire les choses comme elles sont, parce que vous êtes un ours.
Hein?
Goldoni, aujourd'hui, les rustres sont montés au Vieux Colombier par les comédiens français. C'est un grand succès, c'est complet jusqu'au 10 janvier, mais ça vient d'être tourné hier soir par le service public de la télévision et c'est diffusé le 30 décembre à 20h30 sur Culture Box avant une diffusion sur France 2 au mois de janvier. On a entendu que les hommes, là, et Galabru particulièrement, si vous nous parliez des femmes dans le théâtre de Goldoni, de ces femmes dont les rustres dans l'acte 3 de la pièce disent, oh ils sont vraiment des goujats, hein, qu'elles sont coquettes, dépensières, coupables de tous les maux, que le mariage est un enfer et qu'il faudrait se débarrasser d'elles.
Oui, mais là c'est une critique évidemment des hommes, c'est une critique de la société vénitienne qui se referme sur elle-même. Et il y voit quand même, il voit chez les femmes certainement une intelligence, des femmes capables d'apporter un souffle nouveau.
Parce que Felice dans les rustres, à un moment, il s'adresse aux lourdeaux, les successeurs de Galabru, Raffaelli et autres, en leur démontrant tout ce que les femmes apportent de civilité et de sociabilité.
Mais c'est ça, civilité, la sociabilité, l'amour des spectacles, la vie et la gaieté. Vous savez, même dans la fin des rustres, Lucietta, de Barouf à Kiotsot, Barouf et Kiotsote, que vous avez diffusé tout à l'heure. La fin, Lucietta a dit « Nous sommes des femmes bien, nous aimons la gaieté ». Enfin, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est sur la gaieté, sur la vie. Les femmes sont l'éloge de la vie, les hommes sont dans l'enfermement. Voilà, c'est un peu...
Et les femmes rehaussent la beauté de Venise.
Si vous voulez, oui, les femmes rehaussent la beauté de Venise.
Elles en sont l'écho.
Elles en sont l'écho, elles sont certainement des femmes intelligentes, des femmes qui l'ont inspirée, ne serait-ce que pour les rôles de la Locandiera.
Ah, on va y venir à la Locandiera. Mais dites-moi, on fait tout dans le désordre là, parce que...
On fait tout dans le désordre, bien sûr, mais enfin, c'est tellement...
Barouf Akoggia, c'était à la fin de sa vie vénitienne. Les rustres, ça a été écrit après la Locandiera, dont on va entendre ici un extrait dans la version de Jacques Lassalle pour la Comédie Française. Alors, on situe, il y a un chevalier... Ça va être Jean-Luc Boutet, là. Et le chevalier, c'est un homme qui a la réputation de ne pas aimer les femmes.
C'est un misogyne.
C'est un misogyne. Et puis, Mirande de Lina va l'apprivoiser. C'est Catherine Yégel. Elle n'aime pas que les hommes jouent au censeur et elle sait comment s'y prendre avec eux.
Vous mériteriez l'amour d'un roi. Du roi de pique ou du roi de carreau?
Parlons sérieusement, Myrdeline, laissons-là ces plaisanteries.
Mais parlez, je vous écoute.
Mais ne pourriez-vous pas vous arrêter un instant de repasser?
Mille pardons, je tiens à ce que ce linge soit prêt pour demain.
Vous tenez donc plus à ce linge qu'à moi?
Bien sûr, parce que j'ai besoin de ce linge, tandis que vous, vous ne pouvez m'être d'aucune utilité.
Bien au contraire, vous pouvez disposer de moi librement.
Mais puisque vous ne pouvez pas voir les femmes.
Ne me tourmentez plus, vous vous êtes assez vengé, je vous estime. J'estime les femmes qui vous ressemblent si jamais il en existe. Je vous estime, je vous aime et je vous prie d'avoir pitié de moi.
Oui, monsieur, on ne lui dira.
Mais croyez-moi!
Oh non, vous dérangez pas!
Vous méritez d'être servi. Vous riez!
Je ris, oui, parce que vous vous moquez de moi!
Myrdeline, je n'en peux plus!
Vous vous sentez mal?
Oui, je me sens défaillir. Ne soyez pas aussi cruel avec moi, croyez-moi, je vous aime, je vous le jure et... Ah!
Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès.
Peu importe, cela n'est rien. La vraie brûlure est ailleurs.
Où donc, monsieur?
Dans le cœur.
Fabrice!
Non, par pitié, n'appelez pas cet homme.
Mais j'ai besoin de mon frère.
Ah, attendez! Non, je vais appeler mon serviteur.
C'est la meilleure! Je ne pourrais pas me servir de mes gens!
Appelez quelqu'un d'autre! Celui-là, je ne peux pas le voir!
C'est tout de même extraordinaire.
Pardonnez-moi.
Je ne pourrais pas appeler qui je veux.
Je vous l'avoue, je suis jaloux de cet homme.
Il me suit comme un petit chien.
C'est la première fois que j'éprouve ce que c'est que l'amour.
Personne ne m'a jamais donné d'ordre!
Ce n'est pas un ordre, c'est une prière!
Mais que voulez-vous de moi?
Amour, compassion, pitié.
Non.
Dites-moi, la femme, elle est fourbe, là? Parce que elle l'a pris dans ses raies, le chevalier, et elle le mène par le bout du nez.
Je ne dirais pas qu'elle est fourbe, c'est une femme intelligente qui connaît les faiblesses des hommes, puisqu'elle est locandière, elle est patronne de son auberge. Bon, c'est une pièce qui est de 10 ans, qui précède de 10 ans les rustres. Hein, donc c'est ça qui est important à dire. Et elle est libre, c'est une femme libre, parce que son père lui a légué cette auberge qu'elle dirige, et qu'elle dirige avec maestria. Donc tous les hommes tombent amoureux d'elle, et là il y a une... magnifique description de la société vénitienne, un noble décavé, donc ensuite un parvenu qui lui font la cour, un avec la protection, l'autre avec des diamants, il exhibe sa richesse et puis l'autre arrive et dit « moi je déteste les femmes ». Bon, c'est un personnage extrêmement désagréable, il fait partie de la noblesse lui.
Oui, c'est le chevalier, il va être retourné.
C'est le chevalier, etc. Et c'est lui qu'elle va retourner. Alors, elle va le retourner en lui disant, vous voyez comme les autres sont épouvantables, ils se laissent avoir par les femmes, mais moi je ne suis pas dupe. Et elle va jouer au jeu de la vérité. Elle va dire, moi je suis vraie, je suis sincère. Et c'est comme ça qu'elle va le retourner complètement. Et à la fin, ce jeu sur la vérité, elle va évidemment s'y laisser prendre. Il va y avoir un combat entre elle et ce... à travers une scène où elle repasse et elle le brûle avec son fer passé, qui est assez extraordinaire. Et donc, c'est un combat avec cet homme. Bon, il y a une attirance entre eux à la fin. Lui, il veut évidemment enfoncer les portes, voilà, mais elle sait très bien, cette femme, qu'il y a une telle, je dirais, étanchéité entre les couches sociales, que cette femme sait bien qu'il ne se passera rien avec cet homme, qu'il ne les, tous les, d'ailleurs ces nobles viennent là, ne l'épousent pas, ne l'épouseront pas, et elle sait que ce noble ne l'épousera pas. Alors,
c'est comme ça que Strehler expliquait à ses comédiens une pièce de Goldoni.
C'est-à-dire
il disposait comme ça les caractères, il orientait l'interprétation.
Ouais. Il orientait l'interprétation, bien sûr, oui, oui. Il avait une science. D'ailleurs, ses textes sur Barouf, ses textes sur le Campiello, qu'il a monté aussi, dont il a fait une mise en scène extraordinaire, sont très significatifs à cet égard. Comment il a suivi tous ces personnages, il leur expliquait les non-dits, il allait vraiment très en profondeur.
Dites-moi, on va mettre un peu d'ordre chronologique à la fin de cette émission,
les 30 dernières années, c'est à Paris où il est venu pour réformer la comédie italienne, où il a eu des succès divers, où il a fini par écrire en français, par être monté à la comédie française. On connaît moins en France ce très long passage de Goldoni dans notre pays.
Bah, 30 ans, oui. 30 ans quand même. Il a été appelé pour réformer la comédie italienne. Vous savez qu'il y a eu une fusion à ce moment-là entre la comédie italienne et l'opéra comique. Et les comédiens, il dit d'ailleurs dans ses mémoires, et je pense que ça c'était vrai, les soirs de comédie italienne, il n'y avait personne, et les soirs d'opéra comique, les salles étaient combles. Donc, il y a aussi un fait, c'est que les comédiens n'ont plus la pratique de la commedia dell'arte. On lui demande de réécrire des canevas. Lui, il était venu pour faire une sorte de mixte entre les comédies de caractère françaises et les comédies italiennes. Mais on ne lui laisse pas la possibilité, ça ne marche pas. Et donc il écrira énormément de... Il écrit beaucoup de livrets d'opéra qu'il envoie à Londres. Il envoie... des tas de choses, mais ça ne marche pas. Donc il devient professeur d'italien.
Mais pas n'importe où, il est professeur d'italien des filles du roi. Devient, oui. Et il touche une pension de la cour.
Il fait des allers-retours à Paris. Et il envoie des comédies à Venise, dont le très bel éventail qu'il envoie et qui sera joué à Venise, donc qui ne sont pas joués à Paris. Il réécrit aussi un canevas à partir de la Locandiera, Camille aubergiste, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il enlève le suc de cette pièce.
Et les dernières années de sa vie seront marquées d'une certaine tristesse. Il les passera dans la pauvreté. Le jour de 93, où la Convention lui restitue la pension qui lui avait été retirée par l'Assemblée précédente, la législative, il meurt presque aveugle. Il avait 85 ans. Mais on va finir en brouillant les cartes chronologiques et pas sur cette notation amère. C'est le temps des vacances et je pense qu'en générique de fin, vous apprécierez, Myriam Tannant, dans la version stellaire, cet extrait très bref, trop bref, de la villégiature.
C'est pas trop tôt.
Pas sur la table.
Et moi, j'ai faim.
Oui, à table.
Je vais faire du mandon, votre bras.
Oh, les deux, si vous voulez. À vos ordres.
Si vous voulez bien.
Allô, Rosina.
Où va ce Nino?
Je compte bien me régaler.
Avec votre permission, monsieur Philippe.
Tout le plaisir est pour moi.
Ah, c'est trop démarre.
Non, mais il faut bien me laisser quelque chose.
Bien. Nous voilà.
L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée sous les applaudissements de la foule par Ilinka Negulesco. Et à la technique, Stéphane Beaufils. Nous avions fait une grande série, Daniel Fievet, pour les vacances de Noël, il y a 2 ans, avec Bernadette Bricou. Elle est bien connue de nos services et c'est votre invitée.
Oui, nous l'avons fait venir ici. Elle vous salue d'ailleurs. Elle sourit rien qu'à entendre votre voix, Bernadette Bricou. On va partir étudier les contes et la psychanalyse des contes dans cette tête carrée.
Merci à vous deux.